La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu de prière. Bienvenue à vous qui passez la porte de ce temple pour la première fois peut-être. Vous êtes ici chez vous, accueillis par notre Église, tel que vous êtes, là où vous en êtes de vos convictions. Bienvenue à tous ceux qui sont venus aujourd'hui fêter un événement important pour leur famille. Je pense à la famille Monod aujourd'hui, qui se rassemble dans nos locaux. Bienvenue à vous tous qui cherchez une parole de salut. Je vous invite à prier pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur, bénis ce temps de culte. Bénis ce moment où nous te rendons grâce. Permets que nous soyons rassemblés dans la communion fraternelle les uns avec les autres et que cette halte, à part du monde et composée entièrement des choses du monde, puisse être une halte bénéfique pour tous. Que nous puissions entendre ta parole pour que le sacré vienne illuminer le profane. Pour que ta parole vienne évangéliser notre route. Amen. Et nous chantons ensemble les spontanés qui sont au début du psautier français, et c'est le temps de l'Église en ce moment, donc dans le livret des spontanés. Et merci à Sarah Kim qui nous accompagne ce matin. Et nous louons le Seigneur avec cette louange qui nous vient d'ailleurs par le poète, philosophe et médecin qu'on appelait le chantre de Sion et qui est Judas Halévi. Et voilà comment il loue le Seigneur. Louons-le avec lui. Qu'à mes yeux tes voix sont belles. Et me sont chers tes chemins, sans obstacle ni embûche. Rien n'y est tortueux ni trompeur. Je n'ai pu m'avancer sur tes routes que tirées par tes liens. Mon espoir est en toi et mon aspiration. Tu es le rocher de mon cœur, la source de ma vie. Mon œil voudrait contempler ta majesté, mais un être comme moi n'en est pas digne. Quand j'aspirais à te voir, je me tenais au seuil de ta demeure. J'ai subi le poids des péchés de mon peuple, incliné mon épaule sous le fardeau de ses souffrances. Je n'ai pas tendu mes mains vers une divinité étrangère, car nul que toi n'est venu à mon secours. Si j'ai été esclave, c'est à cause de ma croyance en toi, et je n'ai servi personne d'autre que toi. Mon bien-aimé, pour qui ma main se tend vers le haut, et mes yeux s'élèvent vers les cieux. En toi sont ma force et ma forteresse. Même si tu m'anéantissais, j'espérerais encore en toi. J'ai subi ta colère, mais en toi j'ai mis mon espoir. Mon âme s'est efforcée de te servir, elle s'est accrochée aux ailes de ton amour. Toutes tes colères ont passé sur moi, mais mon âme n'a pas oublié ta volonté. Je me suis fortifiée grâce à ton alliance. Ô combien j'ai aimé ta Torah. Je vous invite à louer Dieu avec le choral 22 qui se trouve à la fin des psautiers. Le 22 et nous chanterons toutes les strophes.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Et nous continuons ce temps de recueillement en nous présentant devant le Seigneur. Et nous entendons sa volonté. Il nous dit à travers le livre du Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. » Nous prions le Seigneur. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds qui m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté, ô Dieu. J'ai besoin de toi. Amen. Le Seigneur entend nos plaintes, il entend nos prières et il nous assure qu'il est sans cesse auprès de nous. Et je vous invite à vous lever pour recevoir sa grâce. Le prophète Ésaïe nous l'annonce, l'Éternel sera ton guide constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Chantons notre reconnaissance. Confessons notre foi avec les mots d'un silencieux, d'un trappiste, le trappiste Thomas Merton. Seigneur mon Dieu, Je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, Seigneur, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Voilà déjà deux dimanches que nous prêchons avec Agnès sur le prophète Jérémie. Et ce dimanche encore, nous serons dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, à partir du verset 6. Jérémie a été emprisonné, il est donc pris à partie par le roi Sédécias, qui ne supporte pas ses prophéties de malheur, comme il les appelle. Jérémie dit: la parole du Seigneur me parvint. Hananéel, fils de ton oncle Shalum, vient te trouver pour te dire: achète mon champ qui est à Anatot, car tu as le droit de rédemption pour l'acheter. Hananéel, fils de mon oncle, vint me trouver, selon la parole du Seigneur, dans la cour de la garde. Et il me dit: achète, je te prie, mon champ qui est à Anatot, au pays de Benjamin, car tu as le droit de possession et de rédemption. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole du Seigneur. J'achetais à Hananéel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatot. Et je lui pesa l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je scellai, je pris des témoins et je pesai l'argent sur une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était scellé, avec l'acte et les clauses, de celui qui était ouvert. Fils de Neriya, fils de Machéia, à la vue de Hananéel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat, et à la vue de tous les Judéens qui étaient dans la cour de la garde. Et je donnais, en leur présence, cet ordre à Baruch. Ainsi parle le Seigneur Adonai des armées. Le Dieu d'Israël prend ses contrats, ce contrat d'achat, celui qui est scellé, et ce contrat qui est ouvert, et mêlé dans un récipient de terre, pour qu'il se conserve longtemps, car ainsi parle le Seigneur Adonai des armées. Le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons et des champs en signes et des signes, pardon, excusez-moi, et des vignes dans ce pays. Après avoir remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Neria, j'adresse cette prière au Seigneur. Et à ce moment-là, Jérémie prie le Seigneur pour lui rappeler combien il a confiance en lui. Et un peu plus loin, au chapitre 24, Jérémie dit dans cette prière, il s'adresse à Dieu et lui dit, « On élève des remblais pour prendre la ville. La ville sera livrée aux Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. La parole que tu as prononcée est arrivée et je l'ai entendue. Néanmoins, Seigneur Dieu, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins alors que la ville est livrée aux Chaldéens. Voilà cette étrange histoire du contrat de Jérémie, du contrat d'achat de son champ. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 170, les strophes 1, 2 et 4. Nous prions ensemble avec Anselme de Canterbury. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible, mais où resplendit-elle? Cette lumière, et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-moi. Montre-toi à moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant, je te trouve et que je t'aime en te trouvant. Nous retrouvons donc Jérémie dans la cour des gardes du roi Sédécias. Le roi a fait de ce prophète de malheur son prisonnier. Il ne supporte plus que Jérémie prophétise tant de malheur sur lui et sur sa ville. Peut-être a-t-il raison, mais il ne faut pas le dire. Peut-être Jérémie dit-il la vérité, mais il faut la taire. Il ne faut pas l'énoncer clairement ainsi. Nous avons nous aussi nos prophètes de malheur, ceux qui nous préviennent que la terre va mal, par exemple, que la crise écologique entraînera une terrible crise sociale et que les plus pauvres seront touchés en premier. Nous avons par exemple une jeune fille prophète qu'un président des États-Unis traite de prophète de malheur. Sans doute a-t-il un peu de culture biblique. Elle est comme Jérémie, jeune et passionnée, et elle dénonce une génération qui détourne le regard d'une réalité que nul ne peut plus nier. Déjà, certaines régions de notre pays manquent parfois d'eau. D'autres sont ravagées par des intempéries effrayantes. Et pourtant, la réaction se fait attendre. La conversion ne vient pas vite. Nous avons du mal à entendre les prophètes de malheur. Jérémie a prophétisé les malheurs qui allaient s'abattre sur Jérusalem et le roi ne peut pas l'entendre. Il ne veut pas entendre. La vérité effraie. Elle est comme une violence dans la paix de l'indifférence. Jérémie a été violent en disant la vérité et il est emprisonné. Comme un lanceur d'alerte qu'il faut museler, comme un sage qu'il faut faire taire, Jérémie est en prison. Trop jeune pour prendre légitimement la parole, lui qui vient de la ville des prêtres maudits, Anatot, Jérémie est dans la cour des gardes et durant sa détention, une parole incroyable lui parvient, une parole incongrue, à première vue au moins. Quelle est donc cette histoire de contrat d'achat de champs à racheter? Quel est le rapport entre la situation du prophète et cette transaction? À Anatot, comme dans nos régions, il existe un droit patrimonial. Le patrimoine de la famille est régi par des règles de succession et de rachat. Dans notre droit de succession, nous héritons des biens qui nous reviennent et ils deviennent les nôtres. Dans le cas présenté dans le livre de Jérémie, les biens ou les terres sont vendus à des héritiers légitimes, vendus. Il y a donc un droit des héritiers à racheter des terres dans le cas où un ascendant meurt en laissant son patrimoine à sa veuve qui ne peut plus s'en occuper seule, ou quand le patrimoine est abandonné pour des raisons d'exil, ou qu'il doit être vendu pour cause de trop grande pauvreté de celui qui vend. C'est ce qu'on appelle le droit de rédemption dans la Bible. Écoutons ce que dit le livre du Lévitique à ce sujet. Dieu dit « La terre ne se vendra pas à titre définitif. Le pays m'appartient. Et vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous accorderez un droit de rédemption pour la terre. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. Mais cela va plus loin. Quand celui qui a vendu aura à nouveau les moyens d'avoir ce champ, il pourra revenir le racheter à son frère. Jérémie a donc un droit de rédemption sur le patrimoine de son cousin, Anaméel. Comme dans le livre de Ruth où Boaz avait le droit de rédemption sur le patrimoine d'Élimélec, le mari de Naomi, c'est la même chose. Jérémie n'est pas obligé de racheter, il pourrait passer son tour et ce serait le racheteur, le rédempteur suivant dans la lignée qui aurait l'opportunité de racheter. Mais ici, Dieu demande à son prophète de racheter un champ à son cousin, lequel, quand il aura de nouveau l'argent nécessaire à sa disposition, pourra venir le récupérer. Jérémie se trouve donc dans une situation tout à fait étonnante et paradoxale. Il est enfermé dans la cour des gardes du roi Sédécias, qui pourrait, s'il le voulait, attenter à ses jours, et c'est peut-être ce qu'il souhaite faire. Et c'est alors que Dieu lui demande de racheter un patrimoine qui deviendrait donc le sien. À quoi peut bien servir de racheter un champ quand on est prisonnier et que la guerre se prépare? Quelle est donc cette invitation de Dieu à user de son droit de rédemption? Jérémie pense accomplir la volonté divine en achetant le champ que son cousin ne peut garder. Il met donc à l'abri le patrimoine de sa famille en attendant des jours meilleurs. Peut-être Jérémie aurait-il pu racheter sa liberté au lieu de racheter un champ. Avec l'argent du champ, il aurait peut-être pu payer une rançon pour lui-même. Mais au lieu de cela, il rachète pour le bien futur d'un autre. Il choisit d'obéir à ce qui lui apparaît comme une parole de Dieu. « Je reconnus que c'était la parole du Seigneur, » dit-il. Mais tout en faisant ce qu'il croit être juste devant Dieu, Jérémie interroge. On élève des remblais pour prendre la ville sera livrée aux Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Néanmoins, Seigneur, tu m'as dit, achète un champ. Que comprendre d'une telle histoire? Dans cet étonnant texte où il est question de contrat et de champ, nous voyons un homme dont la situation semble bien désespérée. Et pourtant, il fait un acte qui traduit l'espoir qu'il a dans l'avenir. En l'occurrence, c'est Dieu qui espère pour lui et le conduit vers l'avenir au moment où il est emprisonné dans une ville en état de siège, ravagée bientôt par la guerre avec les Chaldéens, par la famine et peut-être par la peste. Acheter un champ, c'est espérer le replanter un jour. C'est espérer qu'un jour, la paix reviendra. Car en temps de guerre, on ne cultive plus tranquillement les champs. En temps de guerre, même les arbres sont abattus. La terre souffre autant que les hommes et de la violence et de la destruction en temps de guerre. Souvenez-vous, le jeune prophète d'Anatote, Jérémie, a été appelé par Dieu pour détruire et arracher, mais aussi pour construire et pour planter. Et au milieu du marasme, il achète maintenant un champ. N'avons-nous pas nous-mêmes à nous inspirer dans nos vies de ce jeune homme qui, dans l'adversité, entend en son cœur l'appel à espérer et investit dans l'avenir en accomplissant son devoir à l'égard de son patrimoine. Dans les moments où le mal semble s'abattre sur nos vies, quand la maladie frappe sans qu'on puisse la combattre, que les jours tout à coup deviennent comptés, quand la maladie arrive et qu'aucun remède au mal ne se laisse discerner, quand nos vies semblent se rétrécir comme dans la cour d'une prison, parce que l'avenir est oblitéré par le malheur, comment réagir? Faut-il courber le dos et attendre en silence le salut de Dieu, comme il est écrit dans la Bible? Faut-il se révolter et chercher des raisons au malheur qui nous frappe? Ou faut-il miser sur la vie, puisqu'elle est toujours là et qu'elle nous donne des devoirs? Courber le dos peut bien durer un moment, le temps de se reposer de l'épreuve. Mais sans action, le temps n'a plus aucun sens. Il faut bien se remettre à agir. La vie nous le demande. Se révolter est tout à fait légitime. Et le cri de révolte contre le mal qu'on n'a pas mérité est bien compréhensible. Mais passé le retentissement du cri, la question « que faire ?» reste entière. Il ne reste donc plus qu'à vivre. Vivre malgré le mal. Vivre malgré l'inconnu de notre destin. Vivre malgré le risque d'une issue contre laquelle on ne peut rien. Dans le livre de l'Ecclésiaste, ou Coëlette, au chapitre 11 et verset 1, il est écrit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Cette parole de sagesse nous enjoint à prendre des risques pour l'avenir, à donner pour l'avenir. Quand bien même l'avenir semblerait incertain, il nous faut risquer demain. Poser des actes de construction là même où la destruction semble être devenue la règle. Des actes de partage là même où l'égoïsme semble triompher. Des actes qui créent des liens entre les hommes là même où l'on institue la violence comme la seule règle. Avoir assez confiance pour jeter son pain à la surface de l'eau, c'est comme semer une graine au lieu de s'en nourrir. C'est parier sur le fait que notre espoir ne sera pas vain et que la graine un jour portera du fruit, peut-être pas pour nous, mais pour d'autres après nous. Acheter un champ, comme Jérémie, c'est d'abord faire son devoir, ne pas perdre de vue ce que l'on doit aux autres et ce que l'on se doit à soi-même. Quand tout vacille, le moindre sens du devoir permet souvent de résister et de sauver ce qui peut l'être. Acheter un champ comme Jérémie, c'est aussi faire de demain la règle de son aujourd'hui et rester vivant, tourner vers l'avenir. Acheter un champ comme Jérémie, comme il le fait, dans les circonstances dans lesquelles il le fait, c'est enfin aimer Dieu et aimer son prochain. Car Dieu nous veut vivants et notre prochain a besoin de notre dignité d'homme debout. Et Jérémie reste digne de confiance parce qu'il fait son devoir de rédempteur, même quand tout semble perdu. En cette semaine où nous commémorons la libération des camps de la mort, comment ne pas penser à tous ces captifs qui ont cherché jour après jour à garder leur place dans le monde des vivants, alors même qu'une politique raciste voulait les vouer à la disparition? Comment ne pas penser à ces gestes de générosité, parfois même de politesse, d'humanité, parfois même d'humour, face au projet nazi de déshumanisation? Ces petits objets retrouvés, ces dessins, ces notes de musique griffonnées quand même, témoigne pour la vie et pour la dignité de chaque être humain victime de cette extermination de masse. Comment rester humain, digne, quand on est en enfer ? Jérémie parle de cette ville où il est captif, une ville assiégée où les ennemis ne manqueront pas de les laisser mourir de faim, de l'épée ou de la peste. Il va pourtant continuer à faire ce qu'il doit faire avec la même conscience que si l'avenir était ouvert devant lui. Jérémie est, par son droit de rachat du patrimoine de ses ancêtres, un rédempteur. Mais bien au-delà d'une question d'achat de terrain, par son acte de générosité à l'égard de ce cousin d'Anatote, qu'il ne reverra peut-être jamais, Jérémie sauve la mémoire et le patrimoine de ceux qui l'ont précédé, ici un oncle, et il ouvre un espoir devant ce cousin qui, un jour peut-être, pourra à nouveau lui racheter son champ. Quand la guerre sera finie, quand la paix permettra à chacun de cultiver son champ en sécurité, quand une nouvelle génération arrivera. Tout homme ignore la vie qui lui sera donnée, la vie qui sera la sienne dans le futur. S'il choisit la vie, alors il est condamné à espérer. Les cyniques diront que cela ne sert à rien. Les naïfs diront que tout va s'arranger, quand bien même ils n'y croiraient pas eux-mêmes. Mais entre ces deux positions, il peut y avoir une place pour les exigeants, ceux qui considèrent que faire correctement ce qu'ils ont à faire, tant que la vie est là, donne toute sa dignité à leur vie. En faisant ce qu'ils devaient faire, Jérémie a agi pour que le patrimoine de ses ancêtres ne soit pas réduit à néant et pour que les générations qui le suivront retrouvent ce patrimoine. Au milieu de ces deux générations, Jérémie assure la continuité de la vie. Et c'est peut-être ainsi qu'il trouvera le salut pour lui-même. Nous sommes cette génération. Toujours nous sommes cette génération. Entre celle qui nous a précédés et qui nous a laissé une terre et un patrimoine, et ceux qui nous suivent et qui attendent de nous que nous puissions conserver l'humanité. Quand le découragement nous menace, quand le mal nous atteint, souvenons-nous de Jérémie qui, dans un acte prophétique, avait acheté un champ de cette terre maudite que ses ancêtres avaient labourée. Soyons nous aussi des rédempteurs pour ce qui peut être sauvé. Amen. Je vous propose de chanter le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Voilà. Je vous invite à vous asseoir, bien sûr.
Merci, Gérard. Voici le temps des annonces. Tout d'abord, je remercie Béatrice Cléromazir pour cette prédication qui nous dit de nous tourner vers l'avenir et de savoir regarder ce qui est positif dans la vie, même s'il y a des moments difficiles. Merci aussi à Sarah Kim qui nous accompagne à l'orgue. Ce jour, à l'issue du culte, vous êtes invités au Verre de l'Amitié qui se tient dans la grande sacristie. Que vous soyez paroissien ou de passage, vous êtes le bienvenu. C'est un moment important. Ce moment sera suivi d'une de ces période que l'on appelle le dimanche après-midi de l'oratoire. Cette fois-ci, nous n'irons pas au musée du Louvre, dans un autre musée. Les musées ont des petits problèmes d'accueil, de salles fermées. Et puis, je pense que par ce froid, ça n'est pas tout à fait indiqué. Donc, nous vous accueillerons à l'issue de ce pot. Ceux qui le veulent, nous allons discuter calendrier. Ensuite, je vous propose de partager mardi 28 janvier, de 20h à 22h, les rencontres théophiles sur un sujet bien grave, le péché, la faute, l'erreur. C'est animé par Jean-Pierre Clérom et Béatrice Cléromazir. C'est une entrée libre Salmonou. Le 29 janvier, les jeunes de l'oratoire se réunissent, eux aussi, Salmonou, à partir de 19h30, sur un thème, l'esprit. C'est l'occasion à la fois de discuter de textes, mais aussi de partager un repas fraternel. Et n'oubliez pas, le samedi 1er février, le ciné-concert à 16h. Projection du film Le Bossu de Notre-Dame de Worsley. C'est un film de 1923, muet. Il sera donc accompagné avec improvisation à l'orgue par Paul Gousseau. Et puis, le 2 février, à l'issue du culte, il y a le repas paroissial. Merci de vous inscrire de façon à ce que nous sachions mieux préparer ce repas et vous accueillir dans de bonnes conditions. Et maintenant, voici le temps de l'offrande. Montrez-vous généreux, nous avons besoin de vous.
Voilà, je vais demander aux conseillers de l'entraide et de l'apérol de venir nous rejoindre pour la Sainte Cène et son service. Merci. Et je voudrais remettre à vos prières la famille de Laurie Rénac, pour laquelle nous prononcerons un culte d'action de grâce mercredi, ici même, à 10h, mercredi matin.
Louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, Il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme, tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. » Pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que tu nous mets en mémoire et qui souffrent et pour lesquels nous avons une pensée aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, d'être avec eux. Permets que ta volonté soit faite pour eux et que ta bénédiction les accompagne. Nous te remettons les peuples de la terre qui sont en guerre aujourd'hui, toutes ces familles qui ont peur et qui attendent un lendemain meilleur. Donne-leur la foi nécessaire pour espérer en demain et continuer à tenir debout malgré l'adversité et la violence humaine. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles des victimes de la Shoah. Cette semaine remue énormément de choses en eux. Permet que nous soyons tous solidaires de cette mémoire et que nous sachions faire de notre avenir un avenir où l'impensable ne recommence plus jamais. Apprends-nous à apprendre la tolérance, l'amitié entre les hommes. Apprends-nous à enseigner cela à tous ceux qui nous suivent dans les générations suivantes. Nous te prions, Seigneur, pour notre terre et le défi écologique que nous avons à relever aujourd'hui. Ne nous laisse pas sans force devant les images de destruction et de cataclysme que nous voyons sans cesse. Permets que nous soyons ceux qui agissent, ceux qui changent de façon de vivre, pour que notre terre reprenne des forces. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui sont malades et qui luttent contre la maladie, parfois dans une lutte qui n'est pas du tout avec deux partenaires de force égale. Donne-nous, Seigneur, d'être là auprès d'eux, toujours confiants, toujours lucides et toujours exigeants pour toutes les choses de la vie essentielles à l'espérance. Et ensemble, nous te disons dans la confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous invités à la table du Seigneur. D'où que nous venions, avec quelque parcours que nous ayons, nous sommes tous les bienvenus à sa table, car c'est lui qui nous invite. Venez, car tout est prêt. Et je vous invite à former un cercle autour de cette table. Il y aura plusieurs cercles consécutifs à cause de la configuration du temple. Et donc, voilà, je vous invite à attendre dans les allées centrales et vous repartirez par les allées latérales. Merci.
Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur, le ressuscité. Une coupe de jus de raisin est à disposition pour les personnes qui ne prennent aucun alcool. Veuillez vous signaler simplement à nous.
Amen.
Allez dans la paix de votre Seigneur.
Père, nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de notre vie. Donne-nous de cueillir, d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Père, ta force et ton amour. Amen.
Frères et sœurs, cette halte se termine. Nous allons maintenant prononcer une bénédiction qui n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur lui-même. Et je vous invite à vous lever pour la recevoir. Allez, allez dans l'enthousiasme et la lucidité de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Allez avec la connaissance de ce que la vie représente. Allez avec l'exigence que la vie nous demande. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et bénit vos vies. Amen. Et nous chantons.